100% d'Europe, Juliette Rangeval.
The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful.
Bonjour, une décision qui sonne comme une défaite majeure pour le Premier ministre britannique. Par la voix de sa présidente, à l'unanimité de ses 11 membres, la Cour suprême britannique déclare illégale la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 15 jours seulement avant la date fatidique pour le Brexit. Pour l'avocat Philip Sands, professeur à l'Université de Londres, la Cour juge très sévèrement Boris Johnson.
Ce que la Cour suprême a décidé, c'est que l'avis, les conseils qu'il a donnés n'étaient pas corrects, étaient fausses. Et ça, ça crée un vrai problème entre la reine et le Premier ministre. Parce que le système britannique est fondé sur une question de confiance. Et si cette confiance n'existe plus, il y a vraiment un problème. La prochaine fois que Boris Johnson rend visite à la reine et elle lui pose une question, il donne une réponse, est-ce qu'elle peut avoir confiance dans cette réponse? Et il semble que la réponse à cette question est non. Je connais Boris Johnson depuis 30 ans. C'est pas quelqu'un qui est clair et honnête. Et vis-à-vis la reine, ça va avoir des implications très graves et très importantes.
Un lien de confiance abîmé entre la reine et le gouvernement, dit Philip Sands à Véronique Guémard. Il faut un peu nuancer, selon Aurélien Antoine, il est professeur de droit public et directeur de l'Observatoire du Brexit.
La reine est suffisamment éclairée et a suffisamment d'expérience pour savoir pertinemment que lorsque Boris Johnson est arrivé au mois d'août pour lui demander la prorogation, il y avait une tactique politique derrière. Elle s'est juste abstenue de ne pas intervenir à ce moment-là parce que tout simplement, les usages politiques ne lui permettaient pas. En revanche, on peut se poser la question de savoir comment elle réagirait à la suite de ce jugement. Si Boris Johnson va frontalement contre un jugement de la Cour suprême, là ce serait très grave. Et on peut se demander, à l'instar d'autres monarques en Europe continentale, si là elle n'aurait pas un rôle à jouer pour préserver le droit.
Aurélien Antoine, directeur de l'Observatoire du Brexit, invité d'Accent d'Europe. Vivre son homosexualité à visage découvert, c'est toujours difficile en Russie. Il y a 6 ans, le pays a adopté une loi qui interdit de faire de la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Le pouvoir russe se posait alors comme défenseur des valeurs traditionnelles face au libéralisme de l'Occident. Dans le pays, la majorité de la population demeure hostile à l'homosexualité. C'est particulièrement sensible loin de la capitale, même dans une grande ville comme Ekaterinbourg en Sibérie occidentale. C'est un reportage d'Étienne Bouche.
Il a fallu trouver un endroit où aborder le sujet en confiance. Yvan et Valérie proposent finalement une rencontre au centre Boris Eltsine. Depuis son inauguration en 2015, ce complexe culturel s'est rapidement imposé comme le lieu le plus libéral d'Ekaterinbourg. Yvan et Valérie sont deux amis. Le premier a 36 ans et est en couple avec le même garçon depuis 12 ans. Pour éviter les complications, il vit officiellement avec son frère. Valérie, lui, est un peu plus âgée. À 44 ans, il dénombre seulement 3 personnes au courant de son homosexualité. Son sens de l'humour dissimule mal sa difficulté à s'accepter. Et le ton devient sérieux lorsqu'il commence à s'exprimer sans détour.
Le plus terrible pour moi, c'est de devoir vieillir dans la solitude. Car en m'autorisant à être celui que je suis, je me suis condamné à cette vieillesse dans la solitude. C'est ce qui est le plus triste et le plus tragique. Pourquoi cette solitude? Peut-être que je m'aligne sur l'opinion publique, c'est possible. J'ai sans doute tort. Mais il n'empêche, d'une manière ou d'une autre, je mourrai seul, car je ne partagerai pas ma vie avec un homme.
Même s'il a peu d'amis à qui parler, Valérie ne cherche pas pour autant à faire des rencontres. Il ne s'intéresse pas au milieu associatif et ne comprend pas le militantisme. À Ekaterinbourg, il existe bien une association destinée aux minorités sexuelles. Celle-ci occupe un petit local dans le centre de cette ville d'1,5 million d'habitants. Ses militants proposent du soutien psychologique et des consultations juridiques. En dehors de ses activités, l'association est un lieu de rencontre et d'échange. C'est aujourd'hui Anna qui assure la permanence.
Quand il n'y a pas d'événement particulier, on se retrouve ici le soir pour passer du temps ensemble, discuter, partager des infos et boire du thé, par exemple.
Ils sont une dizaine à se retrouver ce soir autour de la table. L'ambiance est conviviale car tout le monde se connaît, mais deux ados se font plus discrets que les autres. C'est la première fois qu'ils viennent à l'association. Avec tact et intelligence, Allah distribue la parole et les met à l'aise. Cette femme de 35 ans est la porte-parole de l'association. Elle observe que la nouvelle génération en Russie, celle qui a grandi avec Internet, est plus ouverte à l'égard de l'homosexualité, en tout cas dans les grandes villes. C'est ce que confirme une étude réalisée au printemps par l'Institut de sondage Levada. D'une manière générale, Allah relève un changement d'attitude ces deux dernières années.
La plupart des médias, quand ils abordaient le sujet de LGBT, ils écrivaient des articles sans consulter les activistes ou les membres de la communauté. Et maintenant, la plupart des médias, quand même, ils contactent des organisations et demandent à qui ils peuvent s'adresser avec telle ou telle question. Et ça, c'est un très grand changement qui est très important. Et aussi, le vocabulaire qu'ils utilisent a beaucoup changé et il est beaucoup plus inclusif, plus correct.
Récemment, un collectif anonyme lui a pourtant adressé des menaces de mort sur Internet. Un épisode qu'Allah préfère minimiser et qui, selon elle, révèle au contraire un changement de ton puisque ces menaces ont été publiquement, clairement condamnées. Après l'hystérie ayant accompagné l'adoption de la loi contre la propagande, l'époque des outrances médiatiques semble révolue. Constantin est une armoire à glace de 38 ans. Il pratique les arts martiaux, ce qui ne l'empêche pas d'adorer Mylène Farmer. Son ancien employeur l'a poussé vers la sortie, mais il gère aujourd'hui une petite entreprise avec son copain. Leur vie commune exige bien sûr des petits arrangements, et Constantin n'a pas attendu l'assentiment de son entourage pour s'assumer.
Quand tu vis dans un certain milieu, ça te conditionne d'une manière ou d'une autre, et il faut être capable de s'en extraire et comprendre que ta vie t'appartient. Historiquement, en Russie, et c'est toujours le cas aujourd'hui, les gens se pensent comme une partie d'un collectif, ils se soucient du jugement de la société. Moi, quand j'ai commencé à m'assumer, mon entourage m'a demandé comment je pouvais parler de ça aussi ouvertement et s'est interrogé sur les réactions que cela susciterait. Alors je leur ai dit, les réactions de qui, mais de qui vous parlez? Montrez-moi la personne qui se permettra quelque chose à mon égard. Alors oui, les gens ont peur, mais c'est dans la tête. Il faut avoir une solide colonne vertébrale pour résister. Dans mon cas, peut-être que c'est le sport qui a joué, ou bien ma petite entreprise, le fait que je sois quelqu'un d'indépendant. En tout cas, je ne me soucie pas du jugement des autres.
La majorité des homos en Russie préfèrent en effet garder secrète leur vie privée, un choix qui entretient clichés et préjugés. Selon le même sondage du centre Levada, 9 Russes sur 10 affirment ne pas avoir d'homosexuels dans leur entourage.
En France, une mission d'information de l'Assemblée nationale s'est penchée au début du mois de septembre sur ce qu'on appelle les thérapies de conversion, qui sont censées changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. L'objectif de cette mission d'information, c'est d'interdire ces pratiques. En Allemagne également, le gouvernement veut supprimer ces thérapies de conversion. Une loi devrait arriver d'ici la fin de l'année. C'est un reportage à Berlin de Déborah Berlioz.
En Allemagne, certaines personnes prétendent pouvoir guérir l'homosexualité. Une affirmation qui a éveillé la curiosité de Tim Gisbers. Journaliste et homosexuel, il est convaincu de l'absurdité de ces thérapies de conversion, mais il s'interroge sur leur méthode. Il s'est donc adressé à deux associations évangéliques qui proposent ce genre de service et il a rencontré leurs conseillers.
L'hypothèse de base est toujours la même. On serait homosexuel parce qu'on aurait eu une expérience traumatisante avec ses parents durant l'enfance ou l'adolescence. Par exemple, on va souvent dire que si le père était absent, certaines choses n'ont pas pu se développer dans l'enfance et donc c'est pour ça qu'un jeune homme est devenu homosexuel.
Ces pseudothérapies essaient donc d'identifier ce traumatisme et de le résoudre. Et question guérison, les méthodes sont variées. Heureusement, les électrochocs ne sont pas à l'ordre du jour en Allemagne, nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, on tente de soigner les homosexuels avec des thérapies de groupe, des prières, des discussions individuelles, voire même des exorcismes. Selon les estimations, 1000 personnes suivraient chaque année ce genre de thérapie. Arndt Bechler est psychothérapeute au sein de l'association berlinoise Schwulenberatung. Cette organisation apporte aide et conseils aux hommes gays, bisexuels et transgenres. Pour lui, les fondements de ces thérapies sont inacceptables.
D'abord, on est comme ça. Et surtout, ce n'est pas une maladie. L'homosexualité n'est pas un choix ou un style de vie. On est comme ça et cela fait partie de notre identité.
Il aura tout de même fallu attendre 1992 pour que l'Organisation mondiale de la santé raye l'homosexualité de la liste des maladies psychiques. Cependant, ces thérapies ne font pas uniquement de fausses promesses, elles sont aussi dangereuses. Arndt a conseillé plusieurs hommes qui ont subi ce genre de traitement.
Le but d'une psychothérapie est de s'accepter tel qu'on est, de renforcer son identité. Les thérapies de conversion font le contraire. Les gens ne sont pas acceptés tels qu'ils sont. On tente de les faire changer et cela les rend malades. Cela peut avoir de graves conséquences comme une dépression, des angoisses et même des pensées suicidaires. D'autres vont tomber dans les drogues ou l'alcool. Ces thérapies détruisent l'estime de soi.
En Allemagne, ce sont surtout des chrétiens fondamentalistes qui cherchent à changer l'orientation sexuelle des gays et lesbiennes. Souvent, ces thérapies sont offertes par des associations religieuses d'obédience évangélique. Mais elles ne sont pas les seules. Certains médecins ou psychothérapeutes assermentés sont également persuadés qu'ils peuvent guérir les homosexuels. Tim Gisbers, lui, n'a testé que la thérapie religieuse lors de son reportage. Pour lui, tous ces pseudo-guérisseurs sont motivés par une profonde homophobie, voire une haine de soi. En effet, dans les organisations qu'il a visitées, la majorité des travailleurs sont eux-mêmes homosexuels.
Ce sont des hommes qui ont sans doute grandi dans un milieu chrétien et qui ont un énorme problème avec leur homosexualité. Et ils font un transfert en tentant de guérir les autres. En répétant aux autres qu'ils peuvent les guérir de leur homosexualité, ils renforcent leur propre certitude. Ils se disent que s'ils peuvent les guérir, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes guéris, qu'ils ne sont plus gays. Mais c'est n'importe quoi. Au final, ces hommes vivent seuls et très isolés.
Pour Tim, ces thérapies n'ont donc pas lieu d'être et le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, est d'accord avec lui. En avril dernier, il a créé une commission pour travailler sur le sujet et interdire ces pratiques. Gabriela Lunsmann fait partie des 46 membres de cette assemblée d'experts. Avocate de profession, elle est également membre du comité directeur de l'Association allemande des gays et lesbiennes. Selon elle, une interdiction pure et simple des thérapies de conversion est légalement faisable pour les mineurs. Mais pour les adultes, c'est plus compliqué, car cela revient à limiter leur liberté de choix. Et ce n'est pas la seule difficulté.
Une interdiction serait certainement efficace auprès des professionnels, comme les médecins et les psychothérapeutes, car ils sont organisés en associations professionnelles et ils doivent avoir une autorisation d'exercer. S'ils contreviennent à une interdiction, ils peuvent se faire rayer de l'ordre des médecins. Mais beaucoup de thérapies sont offertes par des conseillers religieux dans les milieux évangéliques. Ils n'ont pas d'autorisation d'exercer et une interdiction ne les atteindra pas vraiment.
Si une interdiction a une valeur symbolique forte, elle ne suffit pas. Pour Gabriela, la future loi doit aussi prévoir plus de prévention et d'information dans les écoles du pays, ainsi que plus de financement pour les structures d'aide et de conseil aux homosexuels. Un texte devrait être proposé au Bundestag d'ici la fin de l'année.
Jetzt, wenn ich im Wahlkampf einen Termin mit dem Flugzeug wahrnehme, darf ich sagen,
à moins d'une semaine des élections législatives, l'extrême droite autrichienne a désormais un nouveau visage, celui de Norbert Hofer, officiellement adoubé chef du FPE. Un visage lisse pour un homme d'appareil, alors que la formation nationaliste entend bien faire à nouveau alliance avec la droite autrichienne à l'issue du prochain scrutin. Anastasia Becchio.
98,25% Norbert Hofer.
Élu avec 98,25% des voix, Norbert Hofer, tout sourire, s'avance lentement vers l'estrade de la convention de son parti. Costume bleu impeccable, pochette assortie à la cravate, il prend légèrement appui sur une canne, conséquence d'un accident de parapente.
J'accepte le vote, chers amis. Nous sommes de retour, complètement de retour.
Une voix douce, une allure débonnaire. À 48 ans, ce cadre du parti, marié et père de 4 enfants, apparaît comme la figure policée du FPE, explique Patrick Moreau, politologue, chercheur au CNRS, auteur entre autres de L'Autriche des populistes, qui a rencontré Norbert Hofer à plusieurs reprises.
C'est la figure souriante du FPE. Hofer, c'est un homme qui écoute, même si à l'intérieur c'est un loup, c'est quelqu'un qui a un grand sens de la communication. Et c'est ce qui fait sa force.
Si l'ancien ingénieur aéronautique issu de la classe moyenne apparaît comme plus présentable, il n'en est pas moins l'un des idéologues du FPE, auteur d'un programme nationaliste et hostile à l'immigration. immigration, comme le rappelle Jérôme Segal, maître de conférence à la Sorbonne, historien et essayiste à Vienne.
C'est lui qui a orienté le FPE très clairement en 2011 sur une ligne plus proche de l'extrême droite traditionnelle qu'on la connaît en Allemagne et en Autriche, avec cette idée d'un espace germanophone dont l'Autriche ferait absolument partie. Lors des élections présidentielles, qu'il a presque remportées, hein, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait unique dans l'histoire de l'Europe. Lorsqu'il y a eu cette campagne, il a dit « Lorsque je serai président, vous serez étonné de voir tout ce qu'il est possible de faire ».
Norbert Hofer ne sera pas président, mais l'année suivante, en 2017, il devient ministre des Transports du gouvernement Kurz. Il est alors l'un des plus consensuels parmi les 6 ministres FPE. Sa ligne au sein du parti n'en reste pas moins dure, comme le rappelle Patrick Moreau.
Sur le plan idéologique, c'est quelqu'un qui reste extrêmement ferme, s'il veut fondamentalement transformer la société autrichienne en une société, je dirais, autoritaire. C'est quelqu'un qui lutte à tous les niveaux contre l'immigration et contre l'islam politique. C'est quelqu'un qui a toujours été situé sur des positions extrêmement claires, mais quelqu'un aussi qui a parfaitement compris que les chances du FPE passait en fait pour une alliance avec Kurz.
Une alliance avec le VP à l'issue du scrutin de dimanche prochain, telle semble être l'idée fixe du chef du FPE. En témoigne ce clip diffusé par le parti. On y voit Norbert Hofer assis aux côtés d'un faux Sébastien Kurz à une séance de thérapie de couple. Dans cette campagne, le FPE affiche clairement la couleur. Jérôme Segal.
En fait, le FPE n'a peur de rien dans les clips de campagne qu'ils font. Ils ont fait par exemple une campagne pour expliquer qu'il fallait absolument mettre des photos sur l'équivalent autrichien des cartes vitales pour pas que les Mustapha se fassent passer pour des Ali, donc des propos vraiment très hostiles, notamment aux Turcs qui sont assez présents en Autriche. Le racisme en Autriche s'exprime ouvertement. Il faut rappeler que aux campagnes des élections municipales, l'extrême droite n'hésite pas à placarder « Vienne ne doit pas devenir Istanbul ». Et Norbert Hofer a encore de la marge devant lui s'il veut poursuivre sur cette voie.
Les derniers sondages créditent le FPE de 20% des intentions de vote. Cela pourrait lui suffire pour revenir au pouvoir avec la droite.
C'est un film traumatisant mais acclamé. The Painted Bird vient d'être présenté dans des festivals prestigieux à Venise, puis à Toronto. C'est l'adaptation d'un livre, L'oiseau bariolé. À chaque fois, il produit le même effet. Une bonne partie du public sort de la salle, tandis que les critiques, elles, sont dans l'ensemble favorables. The Painted Bird vient également de sortir en République tchèque. C'est le pays du réalisateur de ce long métrage choc, une correspondance à Prague, signée Alexis Rosenzweig.
Rien que la bande-annonce fait froid dans le dos. L'affiche aussi d'ailleurs, une affiche sur laquelle on voit un enfant enterré jusqu'au cou, avec des corbeaux qui s'approchent dangereusement de sa tête. Tout est en noir et blanc. Les dialogues du film sont minimalistes, dans un mélange indéterminé de langues slaves. Pendant près de 3 heures, rien n'est épargné aux spectateurs. Viol, inceste, mutilation. Le réalisateur tchèque Václav Marhol n'est pas du genre à faire des concessions. Il a choisi la manière forte pour adapter le livre du même nom, L'oiseau bariolé, sorti dans les années 60 et présenté comme une autobiographie de Jerzy Kosinski, un juif polonais sauvé de la Shoah grâce à un faux certificat de baptême. L'histoire relate l'errance d'un gamin dans une Europe centrale déchirée par la Deuxième Guerre mondiale et la barbarie. La performance des acteurs est indéniable, celle des enfants comme celle des vedettes charismatiques que sont le Suédois Stellan Skarsgård ou l'Américain Harvey Keitel. À Prague, le film divise les critiques, salué par les uns, les autres dénoncent une spirale de violence plutôt inconsistante. Ce film aura en tout cas été difficile à financer en Pologne, le pays où il a été tourné. Selon son metteur en scène, Václav Marhol, aucun producteur polonais n'a osé s'investir dans ce projet à cause des polémiques concernant l'Holocauste dans le pays, surtout depuis les débats de l'année dernière à Varsovie sur une loi interdisant toute référence à une participation polonaise aux crimes contre l'humanité commis pendant la guerre. Côté tchèque, le débat est beaucoup moins passionné. Ce long métrage a reçu des aides publiques du Fonds national du cinéma. Il vient d'être choisi pour représenter le pays aux présélections pour le prochain Oscar du film étranger.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez, vous nous réécoutez sur RFI.fr et les réseaux sociaux. À bientôt.